Direct sur Europe 1 pour le club de l'été, avec notre invité, le metteur en scène Jean-Michel Ribes. Quand on vous a demandé quels étaient vos coups de cœur culturels, vous nous avez parlé de théâtre, forcément.
J'aurais pu parler de vous, mais ça m'a échappé.
Oui, mais vous ne connaissiez pas encore, c'est pour ça. Puis je ne peux pas être un coup de cœur, ça fait un petit peu mégalo, quoi.
Pas sûr.
Ah, d'accord, très bien. Bon, écoutez, ce sera le coup de cœur d'Ispressac.
On est obligé de draguer dès qu'on est à la radio.
Ah bon?
Sinon, c'est
d'accord.
Important.
En plus, vous dites d'accord. J'ai perdu deux semaines, pour rien, parce que j'ai pas dragué.
On va tout vous laisser.
S'il vous plaît, un petit peu d'intimité, merci.
On va partir.
Alors, dites-moi.
On va parler de Noir, de Tania de Montaigne, qui était jouée dans votre théâtre du Rond-Point au mois de juin.
Claudette Colvin est née en 1939. Elle a grandi dans la ségrégation. Le 2 mars 1955, Claudette sort de l'école et rejoint son arrêt de bus. Elle s'assied à l'arrière, dans la section réservée aux Noirs. Une femme blanche lui demande de lui céder sa place. Claudette refuse. Le chauffeur stoppe le bus pour prévenir la police.
Noir, donc, c'est la couleur de peau de Claudette Colvin, une jeune fille de 15 ans qui, le 2 mars 55, à Montgomery, dans l'Alabama, refuse de laisser sa place dans le bus à une blanche. C'était 9 mois avant qu'une certaine Rosa Parks fasse de même, mais que l'histoire, cette fois, s'en souvienne. Noir, c'est donc une pièce écrite par Tania de Montaigne, mise en scène par Stéphane Fonkinos. Pourquoi avoir eu envie de nous parler de cette pièce ce matin, Jean-Michel Ribes?
D'abord, pour deux raisons. D'abord, parce que Tania de Montaigne est quelqu'un de rare. C'est quelqu'un qui fait partie de ce métier sans en avoir les défauts, l'espèce de souvent de communication un peu stupide. C'est quelqu'un d'émouvant, c'est une grande écrivaine. Et je crois aussi que ça, c'est la première des raisons. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et la deuxième des raisons, c'est parce que le récit qu'elle fait sur la ségrégation, quand on voit ce qui se passe en ce moment et quand on voit qui est à la tête de l'Amérique, c'est tout à fait actuel. C'est-à-dire que ce racisme diffus, quand je lis dans le New York Times que arrêter de traiter Trump de raciste, ça lui fait de la publicité, ça lui fait des lecteurs en plus. C'est quand même terrifiant. On vit en ce moment, ça, il faut le savoir, je veux pas plomber votre émission, mais on vit en ce moment entouré d'une fachosphère incroyable, que ce soit Salvini, enfin, on rêve, on croit, on peut même pas croire que ça existe, un type qui interdit à des migrants qui vont crever d'accoster. Heureusement, la justice italienne fait rempart, mais Erdogan, Trump, ce qui nous arrive en Angleterre, là, Boris Johnson. D'ailleurs, je me demande s'il ne faut pas se méfier des blonds mal coiffés, parce que entre Boris Johnson et Trump, faites attention. Dès qu'il y en
finalement,
a un autre...
c'est vrai qu'il y a, y a un point commun.
Etc., etc., Orban. On est quand même aujourd'hui dans une régression populiste extraordinaire. Et je crois qu'il faut que les gens se révoltent, se moquent d'eux, soient conscients que tout ça va arriver à un étouffement total. Et il faut, voilà. Donc pourquoi Nadia de Montaigne et pourquoi Noir? Parce que finalement, la résistance de cette jeune fille extrêmement courageuse qui a dit non à une femme blanche qui a voulu prendre sa place parce que c'était réservé aux Blancs et que les Noirs n'avaient pas le droit de s'asseoir, c'est un symbole magnifique. C'est-à-dire qu'une jeune femme a fait basculer à un moment la société ségrégationniste, bon, qui a repris du gras et de la santé après, mais je trouve que c'est héroïque. Et je crois qu'il faudrait que les gens aujourd'hui puissent se manifester de cette façon-là, avoir le courage, comme on dit pour l'écologie, chacun peut planter un arbre, et ben chacun peut faire une chose qui est contre cet étouffement raciste et cet étouffement de populisme ignoble, avec des raisonnements simplifiés. Parce que le drame, c'est la simplification. Pourquoi vous n'avez pas de travail? Parce qu'il y a des étrangers. Bah oui, évidemment, évidemment qu'on est bête. Enfin, ce discours lamentablement comme ça, oui, populiste, facile, il faut résister à ça, il faut que chacun s'en occupe très vite.
Et face à cette répression, le mot, c'est peut-être désobéir, et c'est justement le titre de la pièce que vous avez choisi en deuxième coup de cœur. Elle est signée Julie Berès, on en écoute un court extrait.
Mais si je vois une femme voilée qui, toute la journée, là, elle a un truc là, là qui l'a... qui donne pour moi une sensation qui n'est pas super agréable, j'ai toujours ce doute-là de me dire, mais est-ce que cette femme, elle est vraiment libre?
Et pour monter cette pièce, Désobéir, Julie Berès et Kevin Case ont recueilli la parole de jeunes femmes issues de l'immigration, rencontrées auprès de différentes associations d'Aubervilliers. Et c'est la romancière Alice Zénitaire qui a ensuite imaginé une trame dramatique pour en faire une pièce portée par quatre comédiennes qui apportent aussi leur touche à cette pièce.
C'est un des spectacles les plus rafraîchissants que j'ai vu depuis très très longtemps. Ces quatre comédiennes extraordinaires, il y en a notamment je crois qu'elle est congolaise ou je ne sais pas, une femme qui
danse du popping, enfin qui.
Oui, mais très. Oui. Ouais. Non, ça c'est une autre, mais très très forte, qui doit peser, je sais pas, 180 kilos, qui est géniale. C'est une libellule, elle est drôle. C'est vraiment. Et ça désobéit aussi aux règles du théâtre. Ça désobéit à cette culture culturisante qui fait que ça doit être comme ça. Et ça désobéit aux gens qui savent tout. Et c'est un spectacle absolument rafraîchissant, absolument formidable. Moi, je suis sorti de là emballé.
Et la bonne nouvelle, c'est que la pièce reprend au Théâtre National Populaire de Villeurbanne en octobre et elle part ensuite en tournée un peu partout en France. Il y a énormément de dates jusqu'en mai 2020.
Et elle va finir au Théâtre du Rond-Point.
Oui, quelle belle idée. Oui. Et de notre côté, Jean-Michel Rive, je voulais partager avec vous un coup de cœur pour un photographe qui s'appelle Rodolphe Guignard. À l'occasion du 50e anniversaire des rencontres de la photographie d'Arles, il expose ses photographies sous-marines qui sont tirées de son livre Immersion. Bonjour Rodolphe Guignard.
Bonjour à tous, bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On va faire un
exercice. Mon premier métier était photographe.
Eh ben, vous le savez, je ne savais pas. Eh ben, ça tombe bien.
Je sais que vous savez tout sauf ça, donc j'en profite pour vous le dire. Bien. Comme ça, vous savez tout.
Ben, maintenant, c'est bon. Il manque plus rien, alors.
Non,
c'est la seule chose qu'on ne savait pas.
À part ma dernière analyse d'urine, mais je vais la faire porter.
S'il vous plaît. On va faire, Rodolphe Guignard, on va faire un exercice qui n'est pas très radiophonique. Est-ce que vous pouvez nous décrire vos photos?
Oui, alors c'est vrai que
c'est compliqué.
C'est compliqué. Je pense que ce qui caractérise mon style, je pense que c'est surtout de la simplicité. C'est-à-dire que encore une fois, je ne suis pas un photographe professionnel, je suis un photographe amateur et ça change tout dans ma démarche. C'est-à-dire que je ne ressens aucune pression du résultat. Pour moi, le but, c'est vraiment le simple plaisir et tout m'intéresse. C'est-à-dire que ça va aussi bien des baleines qui font 40 tonnes à l'hippocampe pygmée que je pars traquer en Papouasie et qui n'est pas plus grand qu'un grain de riz. Le principal, c'est de véhiculer une émotion toute simple, et surtout de faire connaître au grand public un monde qu'on ne connaît absolument pas et pourtant qui est totalement fascinant.
Et vous le dites, oui.
J'aime beaucoup ce que vous dites, c'est que vous êtes un photographe amateur, parce que l'amateur, il y a un mot, et il ne faut pas oublier que les amateurs, en cueillant des fleurs, ont fait la lavande, et que les professionnels, on fait le Titanic, donc amateur, c'est quand même pas mal.
Et du coup, Rodolphe Guignard, c'est en fonction de vos voyages que vous prenez les photos ou c'est les photos qui déterminent l'endroit où vous partez en voyage?
Alors en fait, ce sont les deux. C'est-à-dire que j'essaie d'allier mon côté globe-trotteur sous-marin, c'est-à-dire que j'ai en tête effectivement des espèces bien précises, et j'essaie d'allier ça avec mes voyages familiaux. J'ai trois enfants et une femme, et j'essaie toujours de les emmener avec moi dans ces voyages un peu atypiques. Alors bien sûr, j'emmène pas mes enfants au fin fond de l'Arctique photographier les orques comme j'ai pu le faire l'année dernière, mais quand j'arrive à mêler les deux, c'est avec le plus grand plaisir. C'est une certaine organisation, c'est
oui,
vrai.
Quand même.
En revanche, c'est vrai qu'il y a certains voyages un peu particuliers, comme avec les crocodiles ou avec les orques, où là, je pars tout seul et ce sont des vraies expéditions que je monte avec des professionnels.
Est-ce que vous avez déjà photographié un requin blanc? Le grand requin.
Alors oui, requin blanc. Alors ça, c'est un mythe, hein, le requin blanc, puisque je me suis déjà retrouvé en pleine eau, sans cage, avec des requins au large de l'Afrique du Sud.
Des requins blancs.
Des requins blancs, oui, tout à fait. Et je peux vous garantir que celui qui a le plus peur, c'est le requin.
Oui. Ah oui.
C'est-à-dire qu'il y a un mythe.
Vous lui montrez vos dents et tout ça, oui.
Exactement, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a extrêmement peur. Oui. Mais faut pas oublier qu'il n'y a que 5 morts par an dues aux morsures des requins, alors qu'il faut regarder le million de morts par an à cause des moustiques ou encore à cause des chiens.
Oui.
Donc c'est vraiment un mythe, c'est un acteur incompris de l'océan. Et quand vous êtes à côté d'un requin, qu'il soit blanc ou d'ailleurs d'autres espèces, ou en tout cas des espèces dites un peu agressives, elles sont surtout méconnues. Et il suffit juste de se mettre à l'eau et de nager avec elles et de se rendre compte, dès qu'on met la tête sous l'eau, dès qu'on met un masque, en fait, on se rend compte que toutes ces idées reçues, elles sont balayées parce qu'on voit en face de nous des êtres majestueux au comportement qui sont extrêmement placides.
Et moi, je tiens à saluer c'est vos photos, c'est notamment le détail, la lumière, il y a des coraux incroyables. Je pense aussi à cette photo prise à Zanzibar où on voit à la fois sous l'eau et sur l'eau. Comment est-ce que vous réussissez techniquement
C'est assez simple, ça s'appelle une photo mi-air, mi-eau. Mmh. On fait ça avec un objectif grand angle. Mmh. Et c'est vrai que le gros challenge de la photo sous-marine par rapport à la photo terrestre, c'est la lumière. Puisque dès les premiers mètres sous l'eau, la plupart des couleurs disparaissent. Et donc, on est obligé d'être équipé de flash pour retranscrire cette lumière. Puisque sinon, tout apparaît bleu ou vert. Et ça, c'est le vrai challenge. Et pour vous donner un petit exemple, quand je m'immerge pour faire une plongée avec mon appareil, je dois prendre une centaine de photos en une plongée, et sur les centaines de photos, il y en a 99 qui sont inexploitables. Oui. Puisque c'est vrai que techniquement, c'est assez compliqué. On a un gros caisson sous-marin, on est dans un univers un peu hostile, puisqu'on a un gros équipement, etc. On est parfois avec des espèces sous-marines un peu rock'n'roll. Mmh. Donc il y a beaucoup de paramètres à gérer, y compris la sécurité, qui reste quand même une priorité. Donc c'est un exercice un peu particulier, qui requiert beaucoup beaucoup de patience, qui est parfois un petit peu frustrant, mais c'est vrai que quand on rapporte ne serait-ce qu'une photo, je vous cache pas que la satisfaction elle est exceptionnelle.
Ouais, on vous comprend. Merci infiniment Rodolphe Guignard d'avoir été en direct ce matin avec nous sur Europe 1. Vos photos sont à découvrir dans le cadre des rencontres de la photographie d'art, c'est jusqu'au 30 septembre à la Little Big Gallery, 6 rue de l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et excellent été à tous.
Merci beaucoup. Dans